Vous écoutez, on lit pour vous.
Face aux violences, un espace pour revenir à soi. Un texte de Manon Legrand paru le 3 février 2025 dans Axel. Les violences physiques et psychologiques laissent des traces sur la santé mentale des femmes. Si le lien n'est plus à prouver, les moyens mis en œuvre pour soutenir les victimes et pour qu'elles puissent bénéficier d'un suivi psychologique adéquat manquent. À Vie féminine Leuze, dans le Hainaut en Belgique, le groupe Chrysalide permet à des femmes de prendre soin d'elles et de retrouver leur estime de soi. Rencontre. Il y a des récits qui glacent, des mots qui apaisent, des voix qui affirment ne plus vouloir se taire, celles qui tremblent encore de peur. Des larmes au coin des yeux et des éclats de lumière dans les regards. Elles sont 6 autour de la table. Chacune ici vient chaque semaine comme elle est, où elle en est. En ce lundi d'octobre, elles sont restées plus longtemps après leur séance collective de méditation, basée sur l'outil des racines et des ailes, ELLES, pour échanger autour de la question du lien entre violence contre les femmes et santé mentale, afin de nourrir ce dossier de leurs expériences. Un sujet dont elles parlent et s'emparent depuis plusieurs mois au sein de l'espace d'écoute mis sur pied par Vie féminine Leuze et sa coordonnatrice Dorothée Duroisin. Chrysalide, c'est le nom que porte ce projet. Un mot qui dit la vulnérabilité et annonce la métamorphose. Je prends soin de moi. Une phrase est sur toutes les lèvres au sein du groupe. Prendre soin de soi. Plus qu'une promesse qu'elles s'adressent à elles-mêmes, elles en font aussi une revendication, car prendre soin de soi n'est pas quelque chose qui va toujours de soi pour les femmes. On s'est toujours mise de côté. Tu souffres, tu souffres. Mais tu penses d'abord à tes enfants, témoigne l'une d'elles. Normalement, je m'occupe toujours des autres. J'essaie de m'occuper de moi maintenant, d'apprendre à prendre soin de moi, enchaîne une autre. Ces femmes ont enduré longtemps, en silence, les coups successifs assénés, parfois depuis l'enfance, jusqu'à ce que ça déborde, que le corps et le mental craquent. Moi, j'ai tout mis dans un disque dur. Pendant plusieurs années, je pensais que c'était derrière moi. Puis soudain, c'est sorti. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi ça m'est remonté comme ça. Puis je me suis rendu compte que c'était précisément au moment où ma fille avait le même âge que quand mon cousin a commis l'inceste, explique Lucia, prénom fictif. C'est alors le début d'une nouvelle vie, celle où elle a décidé d'être amoureuse, d'être elle-même, après s'être sentie sale durant des années. Je suis victime. Ce qui m'a aidé est d'être reconnue victime, poursuit-elle. Tant qu'on ne nous reconnaît pas en tant que victime, que des pros ne nous croient pas, c'est difficile de se reconstruire. Mais victime n'est pas pour autant une étiquette qui doit coller à la peau à vie. Lucia préfère d'ailleurs s'en défaire aujourd'hui et se décrire comme autonome. D'autres femmes autour de cette table se présentent comme survivantes. Pour être reconnue victime, la route est longue et difficile. Et les personnes rencontrées sur le chemin ne sont pas toujours outillées à la question des violences conjugales. On m'a fait prendre des médicaments comme si je faisais une dépression. Ça retombe toujours sur ma tête, comme si j'étais toujours responsable, confie Laurence, prénom fictif, la soixantaine dont l'époux, depuis sa retraite, a renforcé les verrous qu'il a depuis longtemps posés sur son existence. Je suis allé à l'hôpital plusieurs fois avec des bleus, mais personne ne m'a jamais dirigé vers un service adéquat. J'étais perdu, et donc je retournais à chaque fois dans la cage, rapporte Barbara, prénom fictif, aujourd'hui sur le chemin de la reconstruction. Tu n'es pas folle. Les femmes évoquent aussi la difficulté de se reconnaître soi-même victime. Il faut se rendre compte de ce qu'on vit. Et quand on est sous emprise, c'est pas facile, exprime Catherine, prénom fictif, venue avec une amie sage-femme désireuse d'entendre les récits de ces femmes pour affiner ses connaissances, mais aussi se mobiliser en dehors de la maternité. Les histoires sont différentes, mais on a en commun d'avoir été prises pour des folles, ajoute-t-elle. À force d'entendre que c'est de ta faute, que tu es anormal, à un moment donné, tu y crois. De plus, l'un des ressorts des agresseurs est d'isoler leur victime. Alors on perd pied, et comme on est éloigné de ses amis, il n'y a plus grand monde pour dire que ce qu'il nous met dans la tête n'est pas vrai, poursuit-elle. Tu as même honte, ajoute Lucia. La présomption de folie renforce aussi l'assignation au silence. Barbara a tu, longtemps, les violences de son enfance et celles exercées par son ex-mari. Ma famille m'aurait prise pour une folle si je parlais. Ensuite, dans ma vie, on m'a toujours dit que j'étais forte. Quand je devais prendre le vélo et le bus pour conduire mes enfants à l'école, leur géniteur, qui lui, bien sûr, avait une voiture, me disait que j'étais forte. Mais c'était pour me réduire au silence, pour que je ne me plaigne pas. Ici, lors de ces rencontres, elle s'est autorisée à parler et à dire que non, ça n'était pas normal de souffrir. Ici, sont remontés les abus subis 50 ans plus tôt. Le déclic, Catherine l'a eu devant la télévision, un talk-show d'une chaîne française qui évoquait les troubles alimentaires. Je me suis reconnue, j'ai compris que c'était une réaction à ce que je vivais. Je me cachais pour manger parce que je n'étais pas autorisée à manger. Mon ex-compagnon comptait tout ce que j'avais dans mon assiette. Cette émission m'a fait prendre conscience de ça. Alors, j'ai inventé. Je lui ai dit que j'allais voir un psy pour ma prise de poids. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ma santé mentale. Elle précise, « Prendre soin de soi est un long processus. Il faut se reconstruire, trouver un logement quand on ne sait plus du tout qui on est ni ce qu'on aime. » J'ai continué à attirer des personnes toxiques sans m'en rendre compte, subi une autre agression sexuelle, du harcèlement, puis le corps crie à l'aide et un jour on s'effondre. Tu n'es pas seule. Les femmes sont bien souvent seules à prendre en charge le coût des soins. Alors, comme souvent, elles se débrouillent, cherchent des choses abordables. L'espace chrysalide est aussi un endroit où les femmes peuvent co-construire des outils et des solutions ou en apprendre plus sur leurs droits, comme le remboursement des soins psychologiques de première ligne via le réseau Partenaires 107. Dans sa recherche action menée en 2022 sur les besoins de réparation et de reconstruction auprès de femmes victimes de violences conjugales en situation de post-séparation, Vie féminine fait le constat que ces réseaux qui permettent l'accès à un suivi psychologique à bas coût ou gratuit sont dispersés, qu'ils manquent de moyens et sont saturés. En se parlant, les femmes s'échangent aussi des recommandations et des vécus, comme Barbara, par exemple, qui explique qu'il est hors de question pour elle de consulter un homme de peur que se rejouent des violences, de peur aussi de n'être à nouveau pas crue. On est ensemble. Via ce groupe, elles ont accès gratuitement à des séances de méditation depuis septembre, un outil parmi d'autres qui peut aider les femmes dans leur reconstruction. La méditation peut représenter un coût pour les femmes, alors que c'est fondamental pour retrouver le moment présent et prendre soin de soi, explique Dorothée, coordonnatrice du projet Chrysalide. On retrouve son corps éteint, relève Catherine. La méditation offre une opportunité de répéter l'observation de soi pour voir ce qui nous fait du bien ou non, de se repositionner, de se regarder sans juger, partagent les femmes, toutes ravies de leur séance. Ces moments collectifs sont aussi l'occasion de faire exploser la colère, la tristesse ou la joie, d'accueillir les émotions, d'écouter ce qu'elles disent, sans se sentir jugées, sans se juger soi-même. Au final, toutes sont d'accord. Ça renforce notre estime de soi. Prendre soin de sa santé mentale permet de rompre un engrenage dans lequel on était après des années de rabaissement et d'humiliation. Tout s'accumule et il faut absolument prendre soin de soi, sinon ça recommence, insiste Catherine. Se retrouver dans cet espace, ensemble, est l'occasion aussi de briser la solitude, de sortir de l'isolement, subi ou forcé. Ici, je peux respirer et arrêter de ruminer, témoigne Barbara, qui a perdu tout et toutes ses amies depuis qu'elle a quitté le géniteur de ses enfants et dû arrêter son travail. J'ai trouvé ici une écoute que je n'ai jamais eue dans ma famille. Je me suis toujours senti coupable. Ici, je me sens moi, poursuit-elle. On apprend à se connaître à travers chacune des femmes et ça nous fait avancer, ajoute Lucia. Au sein du groupe Chrysalide, les femmes recollent des morceaux de soie tout en participant à tisser la toile d'une réparation collective. C'était « Face aux violences, un espace pour revenir à soi », un texte de Manon Legrand paru le 3 février 2025 dans Axel.
Les droits des femmes à l'époque et aujourd'hui. Nous devons raviver l'espoir. Un entretien avec Flutura Xabija, paru le 24 février 2025, sur la page d'ONU Femmes. Flutura Xabija nous entretient sur sa participation à la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995. Et les raisons pour lesquelles le programme d'action de Beijing n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui. À 76 ans, Flutura Xabija est une pionnière des affaires et du plaidoyer et la fondatrice de l'Association nationale des femmes entrepreneurs artisanes en Albanie. En 1995, elle faisait partie des quelques femmes albanaises qui se sont rendues à la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing, où elle a pu observer de ses propres yeux toute la puissance du militantisme mondial. La conférence de Beijing en 1995, un moment historique pour les droits des femmes. 5 ans après la transition démocratique en Albanie, les informations étaient limitées. Il y avait peu d'organisations de la société civile et encore moins d'expérience, mais nous étions très déterminés. À Tirana, à l'époque, les Nations Unies avaient sollicité les quelques organisations dirigées par des femmes afin qu'elles participent à la 4e conférence mondiale sur les femmes, se souvient Madame Xabija. Elle était ravie et fière, car elle suivait les pas de sa mère dans le militantisme. Nous avons pris le train à destination de Beijing, en Chine, le train de la paix, le train des femmes à Varsovie, raconte-t-elle. Nous étions 200 représentantes du monde entier, voyageant ensemble avec une mission commune. Les wagons étaient bien plus qu'un moyen de transport. Ils ont également été des lieux de rencontre où nous avons discuté de stratégies en faveur de l'égalité des sexes. Ce qui m'a frappé lors de la conférence de Beijing, c'était l'immense liberté d'expression dont jouissaient les personnes. De 1995 à 2025, ce qui a changé pour l'égalité des sexes et les défis qui restent à surmonter. S'agissant de l'impact de la déclaration et du programme d'action de Beijing sur la vie des femmes en Albanie, Madame Xabija a répondu « L'impact a été indéniable en Albanie. Le programme d'action de Beijing était un élément nouveau pour l'Europe. Cela a eu un impact considérable à l'échelle régionale. L'objectif principal était de faire savoir que nous n'étions pas seuls, de souligner l'importance de travailler de manière indépendante dans notre propre pays, tout en promouvant également une coopération internationale. La déclaration et le programme d'action de Beijing ont joué un rôle majeur dans cette aventure. Au sujet des progrès réalisés depuis 1995, Madame Xabija estime que les femmes connaissent mieux leurs droits et qu'elles inspirent leurs pères en tant que femmes mentors. L'entrepreneuriat des femmes est un domaine dans lequel j'ai observé le plus de progrès. Nous avons activement participé aux discussions des chambres de commerce sous l'égide du ministère de l'Économie et du ministère des Finances pour plaider en faveur du rôle des femmes dans les affaires. Toutefois, nous avons encore besoin de politiques plus solides pour aider les femmes à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, ajoute-t-elle. Il faut développer les services de garde d'enfants afin que les femmes n'aient pas à choisir entre leur carrière et la maternité. Quel avenir pour l'égalité des sexes et les droits des femmes en Albanie et dans le monde? On ne peut pas instaurer l'égalité des sexes simplement avec des mots, explique Madame Ksabija. Nous avons consacré trop de temps aux rapports, aux publications et aux discours. Plutôt que de nous contenter de mobiliser les responsables politiques, nous devons travailler directement avec les populations, en particulier les communautés marginalisées dans les zones urbaines et rurales, qui sont souvent oubliées. Notre approche doit être active, individualisée et pratique. Nous devons nous engager à soutenir ces femmes dans le cadre de projets de financement et d'initiatives de formation ciblées. Et tout le monde doit être inclus, sans aucune exception, des plus jeunes aux plus âgés. Tout le monde a un rôle à jouer. Nous devons raviver l'espoir. Madame Ksabija évoque un certain nombre de priorités pour son pays et sa communauté. Il est urgent d'investir dans l'éducation en Albanie, investir dans les entreprises de femmes et garantir des services de garde d'enfants abordables, investir dans le sport et l'art afin de permettre aux gens de se divertir et de se faire plaisir. Conseil aux jeunes féministes d'aujourd'hui. Comprenez l'esprit des gens, recommande Madame Ksabija. Aujourd'hui, les grands esprits se rassemblent, des personnes qui comprennent que les talents, le potentiel, l'énergie et les connaissances des femmes sont encore inutilisés. Pour Madame Ksabija, il est temps d'avancer et de refuser de faire marche arrière. C'était Les droits des femmes à l'époque et aujourd'hui. Nous devons raviver l'espoir. Un entretien avec Flutura Ksabija, paru le 24 février 2025, sur la page d'ONU Femmes.
Les droits des femmes en 2025. L'espoir, la résilience et la lutte contre les réactions hostiles. Un texte de la rédaction paru le 18 février 2025 sur la page d'ONU Femmes. Égalité des droits, égalité des chances, égalité de pouvoir. Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, le monde fait face à une explosion des inégalités. La Journée internationale des femmes est l'occasion de se mobiliser et d'appeler à l'action, mot-clic, pour toutes les femmes et les filles. Cette année marque le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, un accord international audacieux sur les droits des femmes que les gouvernements ont adopté en 1995 et dont les ambitions n'ont toujours pas été concrétisées. Lors de l'examen de l'avancement de cet accord, 24% des pays ont indiqué que l'opposition à l'égalité des sexes a compromis la mise en œuvre des engagements en faveur de l'égalité, des droits et de la protection de toutes les femmes et les filles. L'insécurité, les crises et l'érosion de la démocratie ont créé des réactions hostiles aux droits des femmes. Près de 3/4 de la population mondiale vit sous un régime autocratique qui a restreint ses droits et ses libertés, et en 2022, plus de 600 millions de femmes et de filles vivaient dans des pays touchés par des conflits. Journée internationale des femmes de 2025. les féministes à propos de ce qui les pousse à persévérer. L'opposition aux droits humains des femmes n'est pas un phénomène nouveau. Chaque victoire obtenue de haute lutte, du droit de vote au droit d'exercer un travail rémunéré, en passant par l'égalité des chances et le droit de vivre sans violence, est le résultat de combats menés par des féministes depuis des temps immémoriaux. ONU Femmes s'est entretenue avec des féministes et des activistes du monde entier sur ce qui leur donne de l'espoir aujourd'hui et sur ce que signifie la résilience. Il ressort clairement de leurs réponses que leur foi dans les droits des femmes, les progrès et l'égalité des sexes est indéfectible. Les femmes et les filles n'attendront pas 30 années de plus pour jouir de l'égalité des droits. Aussi complexe que la situation puisse paraître, aussi difficile que soit ce moment, nous sommes là parce que nous sommes en train de gagner, déclare Tarana Burke. Comprendre l'hostilité contre les droits des femmes. L'opposition à l'égalité des sexes découle souvent de la peur de perdre le pouvoir, les privilèges et le contrôle, déclare Jaha Doucouré, survivante, militante et ambassadrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique. Face au nombre croissant de femmes, de survivantes et de groupes marginalisés qui appellent à l'égalité et remettent en cause les systèmes d'oppression en place depuis trop longtemps, ceux qui bénéficient du statu quo se sentent menacés. Les réseaux sociaux ont amplifié à la fois les progrès et les réactions hostiles. Quand les systèmes sont remis en cause, ils se défendent avec d'autant plus de ferveur. Mais cela signifie que nous avons un impact. Ces réactions hostiles indiquent que nous progressons. Les voix des femmes se font de plus en plus fortes, dit Samira Rachwan. Nos droits ne sont pas négociables et ne reposent pas sur un débat idéologique, a affirmé Pateya Yongsangwanchai, une militante pour le climat thaïlandaise de 19 ans qui se fait appeler Grace. Souvent, les gens considèrent que le changement climatique n'a aucun lien avec le genre. Mais ce sont les femmes et les filles marginalisées dans les zones rurales qui emportent le plus lourd fardeau et sont les plus négligées. La plus grande menace pour nous est l'emprise tentaculaire du patriarcat, dit Tarana Burke. Pour Lucia Xavier, la violence est la principale menace et elle repose sur le racisme. Cette violence ne menace pas seulement notre vie, elle menace aussi celle des générations futures. Elle nous empêche d'imaginer et de rêver à d'autres vies. Madame Xavier est une militante féministe antiraciste et cofondatrice et coordonnatrice générale de l'ONG brésilienne Crioula. L'espoir naît des progrès et de l'action. Aussi complexe que la situation puisse paraître, aussi difficile que soit ce moment, nous sommes là parce que nous sommes en train de gagner, estime Tarana Burke, militante, auteure et fondatrice du mouvement MeToo. J'ai de l'espoir quand je nous vois continuer à franchir ces étapes et vraiment nous concentrer sur notre objectif. Sans espoir, il n'y a pas d'action, dit Jaha Doucouré. Les femmes comptent dans tous les domaines, dit Leigh McBowie. L'heure n'est pas au désespoir. Nous devons nous lever, prendre la parole et nous montrer. Personne ne le fera mieux que nous, les femmes, déclare Leigh McBowie, lauréate du prix Nobel de la paix, activiste libérienne pour la paix, travailleuse sociale et défenseuse des droits des femmes. Toutes les personnes qui ont survécu de l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui et qui sont encore debout ont la capacité de continuer à faire pression pour que les choses changent. Ce qui m'inspire et me donne de l'espoir, c'est le militantisme des femmes, déclare Lucia Xavier. Si nous perdions espoir, nous n'avancerions pas, nous reculerions, déclare Samira Rachwan. Sans espoir, il n'y a pas d'action. L'espoir n'est pas passif, c'est un acte radical, rappelle Jaha Doucouré. Il nous pousse à continuer de lutter, de rêver et de croire dans un avenir meilleur, même quand les obstacles semblent insurmontables. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre voix et du soutien que vous apportez aux autres, dit Ali Reisman. Comment les militantes affrontent l'épuisement ou l'hostilité? Je fais de mon mieux pour transformer mes inquiétudes et ma peur en action, tout en reconnaissant également qu'il est naturel d'avoir peur et de se sentir triste, confie Ali Reisman, médaillée d'or olympique, ancienne gymnaste américaine, auteure et militante. Mon conseil pour les jeunes féministes est celui-ci. Souvenez-vous que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, dit Jaha Doucouré. Il y a eu des moments où je me suis senti accablé. Ce qui m'aide, c'est de me souvenir de mes motivations. Les femmes et les filles pour lesquelles je lutte, notamment la jeune femme que j'étais et ma fille Khadija, partage Jaha Doucouré. Je me suis également appuyé sur ma communauté. Le fait d'échanger avec d'autres activistes, de m'accorder des pauses quand c'est nécessaire et de me rappeler que le changement est un marathon, pas un sprint, me permet de garder les pieds sur terre. J'ai trouvé de l'espoir dans le fait d'appartenir à une vaste communauté, dit Grace. On ne peut pas consacrer sa vie à ce travail sans savoir que l'on passera par des périodes d'émotions intenses, y compris le désespoir, prévient Tarana Burke. Suivez votre cœur et soyez à l'écoute de vos besoins. Pour certaines personnes, le désespoir peut être un moteur. Si vous vous reconnaissez, alors procédez ainsi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on est en proie au désespoir et à l'épuisement, c'est que chaque aspect compte, y compris votre propre bien-être. Les progrès ne se mesurent pas uniquement en termes de grands changements politiques, mais aussi de petites victoires, dit Jaha Doucouré. Comment soutenir les droits des femmes aujourd'hui? Nous avons demandé à des activistes du monde entier des conseils sur la manière de soutenir les droits des femmes aujourd'hui. Voici leurs réponses. Informez-vous sur ces questions. Faites des dons aux organisations locales et aux mouvements de femmes pour combler leur déficit de financement. Apportez votre pierre à l'édifice en contribuant à prévenir la violence contre les femmes et les enfants. Aidez les personnes à obtenir les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour pouvoir identifier des situations dangereuses et agir. Amplifiez les voix des femmes et des groupes marginalisés. Demandez des comptes aux dirigeants. Écoutez les expériences des femmes et des filles et croyez-les. C'était Les droits des femmes en 2025. L'espoir, la résilience et la lutte contre les réactions hostiles. Un texte de la rédaction paru le 18 février 2025 sur la page d'ONU Femmes.